Xavier Médic, donc chargé de mission handicap, je suis enseignant-chercheur.
Voilà.
Et donc dans ce cadre, on m'a chargé de mettre en place une politique handicap à la fois au niveau personnel et reprendre ce qui est fait au niveau étudiant.
Et nous avons affaire à ?
À Charlotte, étudiante aussi à Lila et entre autres aussi responsable de l'association Handifac qui milite entre autres pour l'accessibilité des bâtiments et l'insertion des étudiants en situation de handicap dans le monde associatif.
Alors on serait pas tenté quand on est dans un média comme le nôtre en fait de dire mais que nouveau l'actualité de votre présence dans les murs, mais on pourrait dire qu'en définitive réfléchir à l'intégration des personnes ayant un handicap dans le monde universitaire, c'est quotidiennement de l'actualité.
Exact, mais c'est parce que la semaine dernière, nous étions le 11 février et nous fêtions les 10 ans du vote de la loi de 2005 qui milite pour l'accessibilité aussi bien logistique des bâtiments, mais aussi à l'enseignement supérieur des études pour les étudiants et toute personne en situation de handicap.
Et même plus globalement, si vous me permettez, oui. L'enseignement supérieur et l'enseignement en fait, secondaire, oui. Primaire, etc., etc. C'est bien l'ensemble du monde éducatif qui est concerné par la loi de 2005.
Oui.
Et alors justement, quoi de neuf de ce côté-là ?
Je d'accord. Te laisse la réponse.
Donc ce qui se passe, c'est que la loi de 2005, donc, il y avait une dizaine d'années pour la mettre en application. Et donc sur plusieurs volets, donc le volet étudiant, et donc à Lille, ça fait déjà... On n'a pas attendu cette loi de 2005 pour faire des choses en faveur des étudiants en situation de handicap. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnement tout au long de leurs études qui est fait, notamment par la constitution en 2004 donc, et la création du relais handicap du bureau et du service de la vie étudiante. Et donc, ce relais handicap accompagne tout le long de leurs études les étudiants de la première année à leur sortie professionnelle. Et donc ces accompagnements, ils consistent en des accompagnements humains, mais aussi matériels. Donc ça, c'est en résumé, on pourra revenir plus en détail éventuellement par la suite sur le volet étudiant. Et donc cette loi aussi incitait, bien entendu, les établissements publics à inclure les personnels travaillant dans les universités. Donc là, l'université d'Ilin n'avait pas vraiment de structuration interne et de dispositif clairement établi pour accompagner les personnels en situation de handicap. C'était des actions plutôt au coup par coup pour aider éventuellement quelqu'un à s'adapter dans son poste de travail. Donc actuellement, depuis l'année dernière, nous avons constitué des groupes de travail qui ont généré une politique et un plan d'action pour permettre de définir clairement un dispositif d'accompagnement de façon similaire à ce qu'on faisait à ce qu'on fait au niveau étudiant, bien sûr avec les spécificités du monde du monde du personnel. Donc ça, c'est mis en place cette année, et bien sûr ça va s'inscrire dans la durée. Donc il y a pas mal d'actions qui sont prévues à court terme pour essayer d'un petit peu de prendre en compte ces personnes. Donc ça, c'est au niveau personnel. Et après, il y a aussi au niveau accessibilité des bâtiments, de la voirie, où là aussi, il y a un gros travail à faire. Là aussi, il y a un échéancier sur plusieurs années qui doit être constitué pour améliorer l'accessibilité du campus. Voilà un tout petit peu le cadre général au niveau de l'état des lieux et de ce qu'il y a au niveau Lille-1 et ce qui est lancé au niveau Lille-1 en matière de handicap.
Est-ce qu'on peut en dresser déjà un premier bilan, pensez-vous ? Charlotte, vous parliez du 10e anniversaire de la loi de 2005. À votre avis, est-ce que on n'est pas plutôt du côté du coup de gueule ou est-ce qu'on est plutôt du côté de ça avance lentement, mais au moins ça avance?
On serait, concernant Lila, on serait plutôt du côté ça avance lentement, mais ça avance très bien. Parce que personnellement, j'ai d'abord fait mes études sur Paris. De même, l'université était dotée d'un relais handicap. Mais c'est la première fois quand même que je vois un service du relais handicap autant actif.
Oui.
Concernant Lila, elles sont que deux et demi à travailler tous les jours au relais, et elles font un travail monstre pour nous encadrer, pour nous aider. Enfin, pour moi, elles font du beau boulot, et parfois je me demande comment elles font tellement qu'il y a de choses à faire.
Mais c'est quasiment une déclaration d'amour, dites-moi.
Ah bah, sincèrement, au vu des autres relais handicap que j'ai testés en France, oui, c'est une déclaration d'amour, là.
Je vais poser une question un peu bête, mais si comparaison n'est pas raison, comme dit l'historien Jean-Noël Jeannet, vous étiez où à Paris?
J'étais à l'université de Versailles.
D'accord.
Où là, il n'y avait qu'une seule personne qui s'occupait de tous les étudiants. Et qui plus est, elle était à mi-temps sur un autre poste. Donc, c'était pas les conditions optimales.
Fallait venir la nuit pour la voir, en fait, non?
Oui, c'était dur. Oui, priorité aux chimistes. Oui. Voilà.
Voilà.
Fichtre. Donc, sur Lille 1, il y a toujours mieux. On peut toujours faire mieux, mais... Ils ont quand même été les premiers, puisque ça existe quand même depuis
2004, oui.
2004 en tout cas, la structure, puisqu'ils faisaient déjà une politique depuis 1996. Donc, ils ont vraiment été précurseurs. Et bon, on le voit, ils sont compétents et voilà.
D'accord.
Alors, faut savoir qu'en fait, bilan pour la partie étudiante, hein, que les effectifs des étudiants en situation de handicap qui sont suivis ont fortement augmenté ces dernières années. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, sur l'ensemble du campus universitaire, on était à peu près à 50 étudiants suivis. Mm-hmm. Là, actuellement, cette année, on est à plus de 300.
Ah oui, c'est une
progression. Voilà.
Donc ça veut dire que cette intégration ou inclusion, selon le sens qu'on peut donner à ces mots, fonctionne à Lille 1. Après, avec des résultats pas toujours évidents à avoir, parce que on est sur de l'humain. C'est difficile de tenir des études pendant 5 ans lorsqu'on est en situation de handicap. Souvent, ça dure plus de 5 ans parce qu'il y a des étalements d'études. Donc tout est plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a des dispositifs d'aide, mais c'est pas ça garantit pas forcément, bien entendu, la réussite, mais ça aide à la réussite. Donc là, nous, on veut garantir les mêmes chances que les autres étudiants, mais faut se rendre compte que de toute façon, on est dans des conditions compliquées, suivant les pathologies, que ce soit du handicap visible et surtout non visible. Voilà.
Mais bon, en fait, c'est vrai que rien que les chiffres en même sont quand même extrêmement révélateurs. Et comme nous disions tout à l'heure, nous voyons plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que ça avance lentement, mais au moins ça a le mérite d'avancer. Avec, c'est vrai qu'une proportion de passer de 50 à 300. Et comme vous disiez, en fait, Charlotte, en plus, uniquement pour les personnes déclarées, c'est déjà un net progrès par rapport à peut-être avant la loi, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Il faut quand même reconnaître que la loi a permis, en fait, d'imposer dans le bon sens du terme, comme en fait le code de la route impose un minimum de bon sens lorsqu'on est au volant d'une voiture, n'est-ce pas? Donc la loi a permis au moins d'imposer la prise en compte d'une partie de la population qui a non seulement le droit, mais également le devoir de poursuivre en fait son parcours dans le monde adulte, dans le monde étudiantin. Et au moins, là, il y a un minimum de soutien. Et quand le soutien est légal, c'est sûr que ça permet quand même d'ouvrir quelques portes. Alors, revenons un peu plus dans le détail de cette action qui, comme vous le soulignez, mais vous avez compris que vous étiez face à quelqu'un de convaincu par rapport à cette dynamique-là. Quels sont les freins que vous rencontrez en fait dans votre action quotidienne? Est-ce que le frein est plutôt marqué du côté du personnel enseignant, de la part des autres étudiants, ou est-ce qu'on peut également, en fait, à l'instar d'un Pierre Bourdieu en parlant en fait des classes sociales, de parler en fait également d'une forme de plafond de verre de la part d'une partie des personnes handicapées elles-mêmes?
C'est assez complexe. En fait, autant l'ILIN nous soutient dans tous nos événements qu'on organise pour sensibiliser personnel et étudiants au handicap, autant c'est difficile d'attirer le public. C'est vrai, il y a forcément les contraintes horaires et tout, mais on se rend compte aussi que on peut pas les faire venir à nous. Il est plus simple si on veut les interpeller. Il faut vraiment aller à leur rencontre parce que sinon ils viennent pas nous voir. Donc et là, on voit qu'il y a quand même encore différentes mentalités par rapport au handicap, des préjugés qui restent et qui sont bien ancrés. Encore récemment, je discutais avec un professeur qui ne voulait pas tester notre parcours fauteuil. Donc en fait, on propose, entre autres, pour vérifier l'accessibilité d'un bâtiment, aux étudiants ou professeurs, durant 5 minutes, de se mettre en fauteuil roulant et de tester. Est-ce que l'ascenseur est accessible? Est-ce que les portes ici? Et ce professeur a refusé de se mettre en fauteuil roulant de peur d'attirer le mauvais sort.
Ah, quand même.
Oui, donc on a quand même...
On aurait joué de vinette, j'aurais pas deviné la
cause. Non, sur le coup, ça nous a surpris, on ne s'attendait pas à ça, mais ça montre qu'il y a différentes mentalités et quand même des préjugés qui persistent et qui sont durs. Le public le plus facile qu'on a eu à convaincre, ça reste les enfants. Oui. Parce que généralement, quand on fait cet événement, soit on invite une école de Villeneuve-d'Ascq à venir, soit lors de mercredi dernier, les enfants du SCAS, donc ceux qui étaient au centre aéré. Et c'est là qu'on voit que ce sont les premiers à poser des questions, à pratiquement sautiller de joie en voyant un fauteuil roulant et en leur disant « vous allez pouvoir le tester ».
Ouais, en général, de toute façon, il y a moins de barrières mentales.
C'est ça. Ils sont vraiment ouverts et...
Ouais. On n'a pas encore le temps de se forger suffisamment de préjugés, je pense, que lorsqu'on est enfant. Je remets juste quelques secondes, rassurez-vous pas plus, ma casquette d'animateur de jazz et musique contemporaine. En fait, par exemple, on a interviewé la semaine dernière Yann Robin, et en fait, ce grand compositeur de musique contemporaine est content de rencontrer, par exemple, des enfants parce que il sait que vis-à-vis de la musique contemporaine, qui en fait au bout d'un siècle après Schoenberg est toujours avec ses étiquettes de musique qu'on ne peut pas écouter et qui en fait ne concerne que grosso modo que les musiciens, et bien en fait là avec les enfants on n'a pas ces barrières, et donc là ça ne m'étonne pas que vis-à-vis de l'handicap et tout ce qui tourne autour de l'handicap, que ce soit par exemple en fait les infrastructures, les fauteuils roulants, etc., c'est certainement parfois plus facile avec ce jeune public qu'avec les adultes qui ont ces peurs ou ces préjugés et autres.
C'est exactement ça. Autant même parfois notre association, comme elle vise aussi à réintégrer les personnes qui sont en situation de handicap, autant on voit que les étudiants, si on leur demande de venir nous aider à tenir, à animer des stands, quand on dit que ça va être des enfants qui vont être en face de nous, ils ont moins de peur d'y aller parce qu'ils savent qu'ils vont pas être jugés ou dévisagés de la même manière. Enfin, que ça serait une curiosité, mais pas du tout malsaine de la part des enfants.
Oui.
Alors, c'est vrai que vous parliez des freins.
Oui.
Et je pense que les freins, ce qu'on constate à l'université, je pense que c'est valable pour toute la société entière. Et donc, on est en majorité éventuellement mal à l'aise devant le handicap. Donc, pour recentrer le discours sur l'université, en prenant l'exemple des enseignants, c'est vrai que certains me font part de leur problème à appréhender le handicap de certains étudiants parce qu'ils sont démunis, ils ne savent pas comment agir. C'est pas évident et on peut le comprendre.
Ah oui.
Donc tout ça, c'est vrai qu'il y a un travail assez important de la part de notre côté, au niveau responsable handicap, le relais handicap, l'association Handifac. De sensibiliser, donc ces journées de sensibilisation qui ont lieu régulièrement, essaient de s'inscrire dans ce contexte. Mais comme le rappelait Charlotte, c'est extrêmement difficile, là aussi, de faire venir les personnes. Donc ça, on est confronté un petit peu à cela en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on continue cet effort de communication, même si on ne touche pas forcément un grand nombre de personnes à chaque fois, mais ça s'inscrit vraiment dans la durée. Je pense que pour que les regards changent, c'est vrai qu'on aimerait bien que ça change tout. D'accord, j'arrête.
Ça s'entend. Hein,
ouais. Ça s'entend. Désolé, j'arrête de taper sur, sur la table.
Charlotte, vous êtes pas mal non plus dans votre.
Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, mais non, je ne sais plus ce que je devais dire.
Donc, en fait, oui, sur le plan relationnel, que ce n'est pas évident.
C'est,
en fait,
pas, ça, ouais, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que nous, il faut qu'on continue ces actions de sensibilisation et que ça s'inscrit dans la durée. C'est vraiment en poursuivant nos efforts qu'on peut peut-être commencer à changer le regard et les pratiques de chacun d'entre nous. C'est vrai que souvent, on peut être sensibilisé au handicap, on dit c'est bien, mais voilà, quand on a... si un étudiant ou un personnel, on doit l'intégrer dans un service, on aimerait peut-être mieux que ce soit dans le service à côté, des choses comme ça. Donc ça, il faut qu'on change ça, ces modes de représentation. C'est pas évident. Si c'était aussi évident, je pense qu'on n'y aurait pas besoin de loi.
C'est clair.
Voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai que les équipes, là, je n'ai pas eu l'occasion de le souligner, mais quand Charlotte souligne les qualités du relais handicap qui est actuellement en place à Lille-1, vraiment, je suis complètement, et je souligne complètement ces propos, car vraiment, il y a vraiment un contact humain, un premier contact humain qui est extrêmement important dans l'accueil des étudiants. C'est vraiment une mise en confiance, un dialogue à instaurer que peu de personnes peuvent avoir. Donc ça, c'est vraiment pour nous une chance extraordinaire d'avoir ces personnes-là au relais handicap qui permettent d'ouvrir leurs portes et de permettre aux étudiants de s'exprimer et après de les accompagner.
Donc en définitive, il n'y a pas que le regard sur l'autre qu'il faut apprendre à changer, apprendre à éduquer, mais il y a également le regard sur soi-même. C'est sûr que l'on soit en posture de handicap ou qu'on ne soit pas en posture de handicap, on a également quelque chose à apprendre sur soi-même pour en fait savoir aller vers l'autre, qu'il soit justement en fait handicapé ou non handicapé. Alors justement, partons du principe que nos auditeurs à Radio Campus Lille, qui sont bien sûr en fait des gens formidables, vu qu'ils écoutent Radio Campus Lille, vous êtes d'accord avec moi, en fait, auraient envie de contact, soit parce qu'ils ont besoin en fait de contact, ou soit parce qu'en fait ils découvrent que c'est un domaine qu'ils ignorent complètement et qu'ils aimeraient bien creuser un peu l'affaire, ne serait-ce que pour découvrir ce qui est faisable ou découvrir s'il y a moyen de donner un coup de main si on est étudiant, etc., etc., et qu'on voudrait en fait participer à l'effort collectif dans cette logique-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme chose à faire, site internet à consulter, bâtiment de l'université devant lequel en fait il faudrait découvrir qu'il y a une porte et taper à la porte, etc., etc.
Alors le bâtiment où il faut aller, c'est le bâtiment SH1, qui est juste à côté du métro.
La sortie donc cité scientifique, nous sommes bien d'accord.
Et on est exactement le relais handicap et l'association Handifac, puisqu'elle est pour l'instant hébergée gracieusement par le relais handicap, sont vraiment au rez-de-chaussée. C'est la première porte sur la gauche en arrivant. Tout le monde est là, on est ouvert, je crois, à des horaires pas possibles de 10. On doit commencer à 9h30 et on doit fermer à 17h30.
Donc, d'accord. Tout le temps ouvert. Non-stop, du lundi au vendredi.
Du lundi au vendredi.
Très bien. Donc juste à côté du métro Cité Scientifique.
Exact. Et au niveau des adresses mail, concernant Handifac, c'est Handifac, HANDIFAC.
Tout attaché.
Lila, LI2LE, le chiffre 1,
oui.
@gmail.com.
D'accord.
Donc là, pour la partie étudiante, Charlotte a tout dit. Pour la partie personnelle, si on est personnel à l'université, donc là, donc il y a un service des ressources humaines qui va suivre, à l'instar du relais handicap, les personnels concernés. Et donc là, on peut citer aussi les noms, je pense que ce sera aussi bien. Donc là, ce qui est la personne qui est en charge de l'accompagnement des personnels actuellement, c'est Sophie Weber. Donc là, son adresse email, c'est sophie.weber@univ-lille1.fr.
Voilà.
Et donc, voilà, ce sera...
W.
Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est... donc là, le mieux, c'est de la contacter sur son email ou par téléphone. Mais là, hélas, je n'ai pas en tête son numéro de téléphone. Et donc, de prendre contact. Et elle fixe des rendez-vous qui peuvent être dans deux bâtiments différents. Donc, soit OA3, soit SH1. SH1, parce qu'il est aussi très accessible au niveau handicap moteur, aussi visuel, parce qu'il y a des bandes de guidage. Donc, c'est aussi deux lieux différents qui peuvent permettre de mener des entretiens.
Et je pense qu'il est nécessaire, en fait, vous me voyez en train de bidouiller, mais rassurez-vous, c'est toujours en parfaite cohérence avec l'interview. Peut-être également, en fait, nécessaire, comme vous le disiez, Charlotte, en préambule de notre interview, de rappeler, en fait, l'importance de la loi du 11 février 2005. Voilà, je l'ai cherché. Donc, le numéro de loi, c'est 2502, la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et donc, en fait, les différentes formes de l'égalité des droits, j'y trouve des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le titre est long.
Oui, vous me soutenez en fait dans la difficulté que j'ai eue en fait à le dire d'une traite, alors qu'en définitive, professionnellement, je la connais également très bien cette loi. Et en fait, donc rappeler un petit peu en fait son contenu peut-être qui se lance dans l'affaire. Moi, je peux le faire pour l'enseignement secondaire si vous voulez.
La loi est vaste. Elle concerne aussi bien donc l'accès, le droit à l'accès aux enseignements, que ce soit le secondaire, le primaire, le lycée. Mais elle concerne aussi tout ce qui est accessibilité aux bâtiments publics. Mmh. Et elle fixe, entre autres, je crois, les normes à respecter. Mmh. Donc c'est vrai que ces chantiers sont assez coûteux, surtout quand il faut rénover les bâtiments.
Oui.
Donc c'est là... Enfin, ça explique aussi pourquoi les bâtiments ont une rallonge pour pouvoir être accessibles vis-à-vis de cette loi et que malheureusement...
Et une rallonge financière, une rallonge en termes de temps ou les deux, mon capitaine?
Disons que c'est une rallonge en termes de temps, ça c'est certain.
Ouais.
Après, je pense que l'État a dû mettre en place des aides financières ou tout du moins... se permet un droit de regard pour rediriger peut-être s'ils estiment qu'une société fait trop d'actions, par exemple trop d'actions festives, disons, mm-hmm. et elle peut avoir le droit de se prononcer et dire il faut limiter ce budget-là et le rediriger vers l'accessibilité.
Mm-hmm.
Donc ça, je crois qu'ils ont... si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à septembre 2015 qu'ils vont toutes les instances publiques, parce que je ne connais que ce côté-là,
oui, totalement, oui.
Ont un agenda à déposer avec, pour dire si oui ou non leurs bâtiments sont accessibles, mm-hmm. et s'ils ne sont pas, quel est leur prévisionnel pour les années à venir, mm-hmm. sachant qu'ils seront obligés chaque année de faire des travaux, sinon ils sont pénalisés financièrement.
Oui, mais c'est...
il n'y a que ça pour...
pour se mettre en règle avec le droit, et puis tout bêtement avec les logiques du vivre ensemble. On ne peut pas se permettre de vivre en une société ghettoisée, bien qu'en fait ce soit arrivé dans la bouche de notre Premier ministre, mais pour autre chose que les personnes, oui. handicapées. Également rappeler, en fait, pour les personnes qui sont handicapées, me semble-t-il, que... Le fait d'avancer à leur rythme vis-à-vis des études, si besoin est, bien sûr, ne me faites pas dire que je fais de la balgame. Nous sommes d'accord, ce n'est pas systématique. Mais par contre, c'est inclus dans la loi, c'est-à-dire il y a le pass handicap, hein, comme on dit dans le jargon dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire que on peut pas se permettre d'imposer une évaluation, par exemple, en termes d'examen, qui sera identique aux personnes sans handicap. Et donc, en fait, il y a des aménagements qui sont faits dans le temps, dans la difficulté des épreuves. Ce qui ne veut pas dire, entendons-nous bien, en fait, que cela donne des diplômes au rabais, des diplômes bas de gamme, pas du tout. Mais c'est tout bêtement, en fait, une nécessaire et intelligente adaptation. Il était temps, quand même.
Tout comme les aménagements sont tout aussi évalués en fonction du handicap de l'étudiant ou de la personne.
Mmh.
Enfin, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a tous les droits. Et donc, on a un médecin qui est là pour vraiment lister les besoins, mmh. qu'on a, qui, mmh. nous écoute. Et après, les relais met en place les aménagements dans une forme d'intelligence. Mmh. Voilà, pour que tout le monde soit égalitaire.
Mmh. Alors après, il y a ce qu'il y a dans la loi, puis ce qu'on peut faire en plus, oui. De la loi. Mmh. Donc, par exemple, à Lille, et je vais reprendre, parce que ça, c'est quelque chose de très important qui a été mis en place à Lille, par le relais handicap. C'est aussi l'accompagnement au restaurant universitaire, par exemple.
Ah bah oui, c'est vrai, un truc tout bête, oui.
Voilà, donc c'est tout bête, mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas cet accompagnement-là, c'est un frein, mmh. pour les étudiants pour, mmh. suivre leurs études. Ça veut dire qu'il y a une discontinuité à un moment donné dans leur journée. Mmh. Ils ne peuvent pas donc aller au dernier cours de la matinée et au premier cours. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Et le champ du handicap, c'est que des détails,
mmh, ouais.
qui, pour nous, valides, ne paraissent pas très importants. Pour eux, ça devient un obstacle,
ouais.
rédhibitoire. Et ça, il faut et on ne tape pas sur la
C'est également une forme d'handicap. On appelle ça un TOC.
Exactement. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir faire comprendre, passer, que 2 cm sur un trottoir, ouais, ça peut bloquer.
Ouais.
Des voitures qui sont garées sur les trottoirs, voilà, empêche tout mouvement et tout déplacement sur le campus. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on évolue. Mmh. On pourrait croire que c'est simple, c'est pas simple.
Non.
Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça à faire, des petits détails qui sont pas forcément voilà, une grande vitrine à mettre en place aux yeux de tout le monde, mais pour les personnes, les usagers, ça peut vraiment être un signe fort qu'on s'intéresse à eux, qu'on fait des choses pour eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que Lilin a à cœur. Il faut que ça, nous, on puisse le mettre en place.
Oui.
Et j'espère pouvoir vraiment qu'on puisse... alors, quelle échéance de temps, c'est toujours très difficile à faire bouger les choses, mais oui, qu'à terme, on puisse dire, ben voilà, on a réussi à simplifier les déplacements sur le campus, à ce qu'il y ait un maximum de bâtiments accessibles. Mmh. Voilà, par exemple, pour accéder dans votre studio, donc on est au bâtiment M1, c'est... Voilà,
L'ascenseur est à l'opposé du bâtiment.
Il y a un plan très incliné pour accéder, ouais, à l'ascenseur, ce qui fait que quand on est en fauteuil roulant, on ne peut pas remonter le plan pour sortir de l'ascenseur.
Nous connaissons très bien... À Radio Campus, en fait, moi, par exemple, modeste animateur, c'est mon très cher Laurent et que je salue très fort au passage, et puis bien sûr Fernando, en fait, qui m'ont fait rentrer tous les deux à la radio il y a déjà une quinzaine d'années, et en fait Laurent est en fauteuil, et en fait qu'est-ce qu'on a connu en fait comme expérience difficile avec cela, hein. Et puis on en profite au passage, tiens, tenez, l'ascenseur, il y a toute une dimension architecturale complexe qui ne doit pas faire passer cela pour une excuse de ma part, mais un truc encore plus agaçant. Je reviens à votre remarque sur ne pas garer sa voiture n'importe où. Est-ce que vous avez noté sur le parking, qui est juste en fait au pied du bâtiment M1 où se trouve donc Radio Campus Lille, les panneaux qui indiquent que nous sommes sur une place handicapée sont usés par le temps. En fait, ils sont couverts de crasse verte, de la pollution et de la mousse végétale, ce qui fait que quelqu'un qui serait un peu tête en l'air et qui ne serait pas de mauvaise volonté serait capable en fait de se garer sur la place pour réserver aux personnes handicapées sans se rendre compte en fait que le panneau que l'on ne voit plus, de toute façon on n'arrive même plus à savoir en fait qu'il y a le petit bonhomme avec un fauteuil, qu'en fait nous sommes sur une place handicapée. Donc tiens, l'un d'entre vous, c'est qui il faudrait en fait en parler de ce problème là tiens.
Je dirais que toutes ces questions autour des problèmes, j'irais du quotidien, on peut me les faire remonter. Mmh. Après, charge à moi de me mettre en contact avec les services concernés, donc service patrimoine, je dirais, pour Lilin, pour leur faire remonter l'information. Mmh. Après, eux, avec les moyens, je dirais...
Bon, remettre un panneau, normalement, Lilin devrait quand même avoir les sous, quoi.
Voilà. Mais, encore une fois, voilà, il faut faire remonter l'information, ouais, ça ne se fait pas tout seul.
Bah, oui.
Et c'est vrai que l'importance d'avoir une association d'étudiants handifac qui est là un petit peu en veille de tout ça, ça va nous apporter énormément. Mmh. Donc c'est vrai que je suis très très heureux que cette association soit relancée vraiment depuis un an, on va dire.
Mmh.
Voilà, car elle nous aide énormément en fait sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire tenir le bon cap. C'est-à-dire pas théoriser autour du handicap, et se dire, ok, il y a un livre qui s'appelle « De la règle à l'usage », oui, il y a des règles, il y a des règlements, oui, on a quantifié telle dimension, etc. Mais après, il y a l'usage, et c'est ça qui est important. Il faut être sur ce champ-là, il faut être dans ce cap-là.
Mm-hmm. Voilà. Très bien. Et l'actualité, excusez-moi, décidément, j'ai du mal à quitter parfois ma casquette de Radio Campus Musique au Pied. Et le devenir, est-ce que vous avez également en fait des moments forts à retenir pour les mois, voire l'année à venir?
En fait, on travaille un peu au jour le jour et on s'adapte surtout aux étudiants et à leurs envies. Donc en DIFAC, par exemple, on organise souvent des sorties cinéma, que ce soit le week-end ou des repas. Donc, toutes les actualités sont sur notre site internet. Mais là, je ne pourrais pas le reciter par cœur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail et on enverra l'info.
Oui.
Et à part ça, on a aussi pas mal de journées de sensibilisation qui vont encore avoir lieu sur l'Ilan. Et là, on est entre autres en train de réfléchir à participer à la biennale qui va avoir lieu sur toutes les universités lilloises. En fait, c'est tous les deux ans, il y a un temps fort. Donc là, je crois que ça va être le mois de novembre, où toutes les universités se mobilisent autour du handicap et organisent, je ne sais pas, ça peut être des tables rondes, des sensibilisations, des conférences. Donc je crois qu'on a jusqu'au 6 mars pour déposer tout acte de candidature. Donc ça fait un peu court, mais on va réfléchir. Donc voilà.
Sinon, oui, donc il y a la Biennale qui est un événement important. Là, à très court terme, donc le 31 mars, donc il y a une représentation de la Ligue d'improvisation de Marc Ambareul qui va faire une représentation à l'espace culture, donc de 11h à midi, si ma mémoire est bonne. Donc plus tournée vers le personnel en situation de handicap. Mm-hmm. Donc voilà, donc il va y avoir des scénettes qui vont être, jouées. Et à l'issue de ces scénettes, on va pouvoir avoir une demi-heure de débat pour un petit peu débriefer autour de ces scénettes et puis aussi montrer peut-être le dispositif qu'on a mis en œuvre pour l'accompagnement des personnels. Donc c'est le 31 mars. Voilà, que ce sera ouvert à tous, à tout le monde.
D'accord. Bien venir, voilà. Bon. Impeccable, mais c'est formidable. Et de notre côté, donc on rappelle aux auditrices, aux auditeurs, par vos deux personnes respectives, les différents contacts pour clore cette interview, donc, s'il vous plaît. On commence par vous. Les contacts que l'on peut répéter au micro pour se rapprocher des différents acteurs pour le milieu, pour la démarche du relais handicap.
Donc pour le relais handicap, donc il y a un mail, je dirais générique, c'est relais.handicap. @unif-lila.fr.
Ouais, mais,
donc
fait.
La personne qui est responsable de ce relais, c'est Shafiq Attali. Mm-hmm. Donc voilà, donc je dirais que c'est la personne à contacter en priorité, même si elle est accompagnée d'assistantes qui la soutiennent. Et donc au niveau accompagnement des personnels, c'est Sophie Weber.
Oui.
Voilà. Et donc voilà, on sait les deux champs, on va dire, de contact. Et puis sinon, vous pouvez toujours me contacter, moi, donc Xavier Mélic, pour éventuellement pouvoir aiguiller sur ces personnes au besoin.
Très
et
bien.
Puis je laisse
finir. Eh bien oui, c'était très sexiste dans la démarche. Nous gardons le meilleur pour la fin. Allez-y, voilà, Charlotte.
Donc nous, c'est handifac.lila@gmail.com. C'est l'adresse passe-partout. Et après, on rediffuse l'information vers les champs concernés. Que ce soit le relais handicap, si c'est plutôt une question de pédagogie, mm-hmm. ou encore le service insertion professionnelle, car ils prennent aussi en charge cette dimension-là. Et tout ce qui est convivialité et autres, c'est Handifac.
Voilà, impeccable. Et donc Handifac, c'est bien et bien le bon site internet que j'ai sous les yeux, handifac-lille1.e, mon site.com.
Non.
C'est plus ça ?
Non, alors ça c'est l'ancien site.
J'ai bien fait de vous le dire alors.
Voilà. Quand on va sur cette page, si je ne me trompe pas, ça nous redirige vers le nouveau site qui est.
Eh bien, nous allons tester. Alors, SharePoint.
C'est ça.
Eh ben voilà, comme
avec
ça en
fait.
Avec
la nouvelle technologie.
Voilà. En fait, je le fais exprès, quitte à grappiller en fait quelques minutes sur le système automatique de Radio Campus Lille. Je voulais avoir le cœur net en fait de cette adresse net.
C'est ça.
Donc, on répète, chers auditrices, chers auditeurs, et merci de nous l'avoir confirmé, Charlotte. Donc, l'adresse internet, c'est handifac-public.sharepoint. SharePoint, ça s'écrit SH. SHAREPOINT.com. Je répète, handifac-public.sharepoint.com pour découvrir le site de Handifac.
Voilà,
et donc en fait toutes vos activités
sont mises sur le blog et voilà. Sur la page Facebook qui est en haut à droite.
Impeccable,
voilà.
Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Charlotte.
Merci de nous avoir invités.
Oh, mais c'est tout plaisir était pour moi. Merci beaucoup à Rosemary bien sûr pour son énorme travail pour mettre en lien le monde universitaire de la métropole lilloise et notre modeste radio campus Lille, plus vieille de France au passage, cocorico. Allez, chers auditeurs, chers invités, Xavier, Charlotte, encore un grand merci. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi. Au revoir.
Merci bien.